Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour et bienvenue dans La Voix et Livre de l'été. Chaque semaine et tout l'été, donc nous nous pencherons sur la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. Et on commence forcément par le monument, le mythe, l'archétype presque de l'écrivain, Marcel Proust. Pour en parler, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il a fréquenté ce micro quelques années. Il est philosophe, mais aussi romancier, dramaturge et complètement dingue et obsessionnel de Proust. Amoureux même, puisqu'on lui doit un dictionnaire amoureux de Proust chez Plon, écrit avec son père. Vous avez reconnu sans doute Raphaël Antoven, on le retrouve dans un instant. Mais je vous annonce quand même la suite. Nous visiterons une bibliothèque, celle de Clémentine Sélarié cette semaine, et nous aurons même un privilège, vous verrez. Et puis à la fin de cette émission, nous recevrons deux libraires de l'équipe pour deux très bons conseils. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Nicolas.
Ça
bonjour
me fait toujours
tous.
Drôlement plaisir de vous recevoir dans ces studios.
Non, moins qu'à moi, camarade. Vraiment,
je l'ai dit, vous êtes fou de Proust et de la recherche du temps perdu. Vous avez d'ailleurs intitulé votre dernier roman « Le temps gagné », un hommage direct au maître. Hein.
Oui. C'était pas une façon de dire le contraire. Oui.
Alors avant de rentrer dans le dur, qu'est-ce qui vous fascine chez Proust et comment l'avez-vous rencontré ?
Oh, moi, ce qui m'émerveille chez Proust, c'est la capacité qu'il a à décrire des trucs que j'ai vus. Et que personne jusqu'à présent n'avait décrit. En fait, il donne à tout ce que je vois une saveur incroyable, un moment d'hypocrisie, la façon dont quelqu'un plisse un œil, la réponse de quelqu'un. Des petites choses fugaces de l'existence se trouvent dans ce livre vieux de plus d'un siècle maintenant. Et c'est ça qui m'a émerveillé, moi, la première fois. J'ai trouvé le greffier de mes toutes petites impressions. Et puis, je l'ai découvert en première grâce à une professeure merveilleuse, Madame Morel, qui avait à l'époque dans un groupement de textes, on appelait ça comme ça pour le bac français, qui s'appelait le roman du rire, avait consacré quelques cours à quelques textes d'un amour de Swann, qui étaient les textes où Proust fait profession presque d'humoriste, puisque c'est au début d'un amour de Swann, sont les soirées chez les Verdurin, et c'est hilarant, et officiellement hilarant. Proust est parfois très drôle sans qu'on s'en aperçoive, parfois il est très drôle sans le savoir. Parfois il est drôle à ses dépens, et en la circonstance, il est drôle délibérément, et il y arrive quand même.
Encore une prof qui a sauvé une vie, quoi.
Oui, c'est ça. Une existence, plus qu'une vie, parce que bon, j'étais pas en danger de mort, mais j'étais en danger d'ennui. Et quand je suis tombé là-dessus, et que j'ai découvert le genre de chance qu'on avait de pouvoir lire des choses comme ça, et d'être né après des livres comme ça, évidemment, l'existence se voit singulièrement embellie.
Enfin, l'ennui et la mort, c'est la même chose pour vous.
Bah, c'est mourir de son vivant, c'est embêtant.
Vous avez dit greffier des impressions,
oui.
C'est joli, je la garde.
Allez.
C'est une définition de l'écrivain, en fait, Proust.
C'est une métaphore de Cioran. Cioran se décrivait lui-même comme le greffier de ses sensations. Et j'aime l'idée que la littérature et le greffe la signature de ce qu'on a vécu. Et qui, si personne n'avait pris la peine d'opérer cette alchimie, de l'extraire avec un trépan, serait retombé dans la longue série des jours oubliés. La littérature sauve ça.
Ce serait vulgaire de chercher l'utilité d'une œuvre ou d'un écrivain, mais est-ce que quand même il vous sert au quotidien, Proust ?
Oui. Mais oui, parce que c'est quelqu'un qui, exactement comme Spinoza, mais j'avoue que l'enveloppe spinoziste est plus difficile à percer, exactement comme Spinoza, rend vos douleurs plus intéressantes que douloureuses. Et vous attire, finalement, attire votre attention vers ce que vous redoutez ou ce que vous ignorez et rend la découverte ou les impressions les plus ordinaires de l'existence leur donne une saveur qu'elles n'avaient pas. Donc, est-ce qu'on peut parler d'utilité à ce titre ? Oui, je crois. Objectivement, oui. On peut parler d'utilité quotidienne, de vertu presque quotidienne. C'est plus qu'une utilité quotidienne, c'est un accompagnement. C'est une façon d'être ou de voir, surtout.
Et de la recherche du temps perdu, donc, oui. C'est un livre... Un roman sur la mémoire, finalement. Et le point de départ, et on commence donc par là, c'est la Madeleine.
Oui.
Vous nous racontez cette histoire de Madeleine ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. On en parle tellement qu'on ne le lit plus. Le narrateur trempe, fait fondre un peu de Madeleine dans sa tisane. Et à l'instant de goûter cela, il se retrouve dans la chambre de sa tante ou de sa grande-tante, ça dépend des pages, tante Léonie. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que le narrateur ne se souvient pas, en mangeant de la madeleine, du moment où il allait dans la chambre de tante Léonie bouffer des madeleines dans du thé. Non, il le revit. Littéralement, il le revit. Et c'est la qualité de cette mémoire. C'est tout de là l'importance de la différence proustienne entre la mémoire volontaire et involontaire. Il ne fait pas exprès de se souvenir de la Madeleine, mais les choses dont on ne fait pas exprès de se souvenir ressuscitent littéralement dans leur saveur, dans leur odeur, dans leur parfum. Alors que les choses dont on veut se souvenir, finalement, culminent en carte postale.
Et ça, c'est arrivé à tout le monde, tout à coup, une odeur qui téléporte dans le passé.
Qui téléporte dans le passé ou qui téléporte le passé dans le présent et qui donne au présent une saveur nouvelle. L'erreur est de croire que la recherche du temps perdu est une longue biographie du passé. Alors que pas du tout, c'est une résurrection permanente du passé, c'est une présence du passé au présent. C'est un livre sur le goût de vivre et non pas le goût d'avoir vécu. Ça n'a rien d'un livre nostalgique alors qu'on est en permanence dans la réminiscence.
Et quand c'est pendant cette scène, c'est très spectaculaire finalement cette scène. C'est comme dans une spirale.
Alors il me reste une chose à dire sur cette scène, enfin plein de
trucs. On dirait un truc de dessin animé, ça fait.
Ça va à toute vitesse et comme ces petites fleurs japonaises, hein, tout un village, tout Combray, ses habitudes et ses marchands, tout ça a surgi de ma tasse de thé. Un point très intéressant, il est heureux avant de savoir pourquoi. Il mange une madeleine et il a une bouffée de bonheur comparable à la bouffée de tristesse qui s'empare de lui quand il se souvient de sa grand-mère, ce qui est un autre moment de réminiscence proustienne un peu plus tard dans Sodome et Gomorre. Ce qui est très extraordinaire, c'est que l'émotion, qu'elle soit heureuse ou qu'elle soit triste, l'envahit avant qu'il la comprenne. Et à la seconde où il la comprend, il essaye de la retrouver en remangeant de la madeleine. Mais là, soudain, la démarche étant volontaire, les vertus du produit semblent s'être dissipées. Il doit chercher ailleurs que dans la madeleine, il doit chercher en lui. Et c'est là qu'il devient écrivain. Donc, la madeleine, c'est un type qui ne fait pas exprès de ressusciter son passé en mangeant une madeleine et qui soudain comprend, ou qui mettra tout le livre à comprendre, mais qui comprend déjà un peu que la vie ne vaut que par le cadeau qu'elle nous fait d'instants fugaces qui, si l'on est écrivain, sont la matière première de la littérature.
Et c'est un livre... La vie ne vaut que par les sensations, c'est ce qu'il a l'air de dire.
Absolument,
aussi.
Absolument, la vie ne vaut que par les sensations dans la mesure où on est capable de les consigner dans les anneaux d'un beau style et de les préserver dans leur vivacité. C'est pas un congélateur, la recherche du temps perdu, c'est un cimetière de fantômes vivants. Et donc on voit les choses. On les voit arriver et on les sent et on les éprouve. Et c'est ça qui est remarquable. Ils conservent les sensations dans leur fraîcheur et non biaisées par un regard subjectif.
C'est magique. Les entend. On entend les pas de la maman dans l'escalier, la voix d'Albertine.
On entend la voix d'Albertine dire si vous croyez que c'est folichon. On entend les pas de la maman dans l'escalier. On entend le carillon ferrugineux qui sonne et dont la sonnerie signifie que maman ne viendra pas lui donner un baiser parce que Swann vient dîner. On entend tout ça. On l'entend tel qu'il les a entendus. C'est ça qui est extraordinaire. Dans 1000 ans, on les entendra de la même manière.
Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, quand il réessaye, donc c'est volontaire. Ça
marche pas.
La magie ne marche plus. Mais quand on l'a lu, on essaye aussi de chercher aussi ces éléments-là. Et donc on se dit, tiens, je vais essayer de faire ça, ça va peut-être me rappeler mon enfance ou tel instant de ma vie et m'y ramener.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment...
Ça peut fonctionner quand même.
Ça peut fonctionner par hasard. C'est comme si, par exemple, vous voulez chercher l'amour de votre vie sur Tinder. Bon. Donc vous êtes dans une démarche volontaire, vous établissez un certain nombre de critères, je veux qu'elle aime ça, les films d'action, ci, ça, etc., etc. Vous essayez de matcher le truc le plus possible. Et puis vous rencontrez quelqu'un. Bon, et puis ça marche, c'est l'amour de votre vie. Mais si ça marche, c'est pas parce qu'il y a des croix en commun, c'est pas parce que vous avez matché les mêmes trucs. Non, si ça marche, c'est parce que l'étrange élection massive et indivise qu'on appelle amour s'est portée aussi sur cette personne-là. Mais en aucun cas, vous ne pouvez expliquer le sentiment que vous éprouvez. Et c'est à cet endroit-là que se situe la littérature, c'est-à-dire au seuil de l'inexplicable et du compréhensible. On comprend qu'on tombe amoureux, mais on peut pas l'expliquer.
C'est quoi être proustien? Est-ce que c'est un truc de cuistre ou ça a un sens? Et
ça peut avoir plein de sens, être proustien. Ça peut être faire le cuistre. Ça peut être aussi être proustien, s'attacher en permanence à dorer le réel, à le vernir un peu, à l'embellir. Être proustien, ça peut être aussi tout simplement mettre les mains dans la merde et ne pas en avoir peur et partir du principe, comme Elstir dans La Recherche, qu'il n'y a pas de matière noble pour l'écrivain. Donc il y a 1000 façons d'être proustien, mais elles ont toutes en commun une chose. C'est un certain rapport à la mémoire qui, encore une fois, n'est pas un rapport de retour en arrière, c'est pas Back to the Future, non, c'est pas un rapport de nostalgie, c'est un rapport de résurrection. Et ceci est le point commun, à mon avis, à tous les lecteurs de La Recherche, c'est-à-dire qu'ils se rendent eux-mêmes perméables aux souvenirs involontaires à mesure qu'ils lisent ce livre.
On dit La Recherche, d'ailleurs. On dit pas La Recherche du temps perdu, on dit La Recherche.
Et on dit même pas La Recherche, on dit La Recherche, comme d'autres disaient Mitran, vous savez. On dit La Recherche, voilà, c'est comme ça.
Eh bien, on cherche La Recherche encore dans un instant. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, émission dédiée aujourd'hui à Marcel Proust, toujours avec Raphaël Antoven, qui publie d'ailleurs, je le dis en passant, L'École des Dames, une pièce de théâtre aux éditions de l'Observatoire. Mais Proust, donc.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil.
C'était l'Incipit et la suite de La Recherche du temps perdu, lu par Stéphane Varupen de la Comédie française, sans doute la première phrase de roman la plus célèbre en France et donc peut-être dans le monde. Pourquoi, Raphaël Antoven, vous qui récitiez en même temps que le disque passait, quel est ce mystère qui fait de Longtemps je me suis couché de bonheur un repère commun dans l'imaginaire collectif?
Oui.
Est-ce que vous avez vu un début de réponse?
D'abord, c'est parce qu'on a un doute sur la façon dont ça s'écrit. Longtemps je me suis couché de bonheur. On a tendance à penser que c'est le bonheur qui le met au lit. Il y a un premier malentendu. L'autre malentendu vient du fait que cet incipit célébrissime est aussi désigné par bon nombre d'écrivains, de scientifiques, de grands esprits, comme Freud notamment d'ailleurs, comme un cauchemar de lecture, hein, puisqu'on s'en fout de savoir pendant 40 pages, cet homme qui se retourne dans son lit et qui cherche le sommeil. Bon.
Je me rends compte que j'ai écrit bonheur en un seul mot quand je l'ai réécrit.
Mais voilà, mais comme par hasard. Ce sont pourtant les plus belles pages du livre et les plus abouties, je crois. En fait, il les écrit juste après ce qu'il décrit à la fin du livre. Le livre s'achève sur la décision de devenir écrivain. Et par conséquent, les premières phrases sont les phrases qu'il écrit juste après avoir pris la décision qui clôt le livre. Donc on s'apprête à lire le livre qui va le conduire à la décision d'écrire ce livre. Et on est dans ce début magique. C'est un début... on a voulu dire qu'il ne trouvait pas le sommeil, mais c'est pas vrai. Dès la ligne 2, il dort déjà sans s'en apercevoir. Et il est réveillé une demi-heure plus tard par la pensée qu'il est temps de s'endormir. Mais surtout, on ne comprend rien, me semble-t-il, ou on passe à côté de ce passage, si l'on dit, de ce début extraordinaire, si l'on y voit uniquement un homme qui a du mal à s'endormir. C'est un homme qui a peur de s'endormir parce qu'il a peur de mourir, et qui se demande si ses rêves, dont le bruit s'efface à mesure qu'il ouvre les yeux, dès qu'il ouvre l'œil, son rêve qui s'enfuit à tâtons, il se demande si son rêve va passer la douane du réveil, si ça va marcher, de la même manière qu'un écrivain se demande si son œuvre va passer la douane de sa mort. C'est ça qui est en jeu d'emblée. Tout est en jeu. Dès le début de ce livre, toutes les cartes sont posées sur le lit, non pas sur la table, puisque sa table est un lit. Toutes les cartes sont posées, et en particulier l'enjeu qui est de ne pas mourir tout à fait quand on meurt, ou de ne pas dormir tout à fait quand on dort, ou de n'être pas complètement réveillé quand on rêve, quand on est réveillé, c'est-à-dire de conserver encore à son éveil la saveur des rêves perdus. Proust n'est pas un écrivain du rêve, c'est pas un écrivain de la veille, c'est un écrivain de la rêverie. C'est un écrivain de cet état intervalle, de cet état intermédiaire qui permet à un homme d'entrevoir des choses qu'il ne voit pas s'il est trop lucide, et dans le même temps, qui lui permet d'être assez lucide pour les restituer. Et c'est cet entre-deux où Proust excelle et qui fait toute la force de la littérature et toute la force de ce livre. C'est qu'il est à mi-chemin du rêve et de la veille. Et donc ce qu'il voit, nous ne le voyons pas ordinairement. Il est attentif aux choses qu'on néglige de regarder. Et dans le même temps, il est encore assez lucide pour nous les offrir.
Alors, qui est-il, ce Marcel? Je vous aurais bien passé un extrait d'interview, mais il n'existe pas d'enregistrement de Marcel Proust. Je rappelle, c'est début 20e. On ne connaît pas sa voix. On a une description seulement par son ami Jean Cocteau.
Chez Marcel, tout était cérémonial. D'abord, il était extrêmement susceptible. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard, et peut-être l'avait-on commise, parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte. Il m'écrivait 15 pages, « Vous avez fait semblant, mon cher Jean, de ne pas me voir. » J'avais pas vu Marcel, je pense bien que je me suis précipité à sa table. Simplement, il en faisait toute une aventure, et dans le transcendant, on a l'œuvre de Proust.
C'est fascinant quand même à quel point justement Marcel Proust fascine, c'est une sorte de vedette avant l'heure.
Oui,
il y a quelques
Cocteau.
Années, il y avait eu un tout petit extrait vidéo, peut-être éventuellement c'est lui qu'on voit passer dans le fond.
Oui, il y a un fétichisme, c'était lui,
hein,
il n'y a aucun doute,
oui.
Mais... c'était un mariage en l'église de la Madeleine, il n'y a aucun doute sur le fait que c'était lui, ou alors c'est son sosie absolu, il y a pas de... ou alors c'est la double vie de Véronique si vous voulez, parce que vraiment... Mais... il y a eu tout un fétichisme là-dessus. On a fétichisé le corps de l'auteur. C'est pas ça qui compte.
Mais c'est étrange parce que la recherche, finalement, c'est lui. Si on a lu La recherche du temps perdu, a priori, on sait qui est Marcel Proust. Mais on veut savoir, on veut plus de photos, on voudrait sa voix, on voudrait... Il y a quelque chose de la vénération. Là.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vénération et qui, à mon avis, est un exercice anti-proustien. Mais ça, c'est un vieux débat qu'on a. L'alternative est la suivante. Pour ou contre Sainte-Beuve, la littérature, La recherche du temps perdu, est-elle la biographie de son auteur ou est-elle séparable de celui qui lui a donné le jour? Les deux discours sont vrais. En ce qui concerne La recherche du temps perdu, évidemment, Proust a tout intérêt à considérer que les deux sont séparés, puisque comme il est hétérosexuel dans son livre, il s'est fabriqué une personnalité qui n'est pas la sienne. Le Marcel du livre n'est pas exactement Marcel Proust, même s'il s'appelle Marcel aussi. Mais c'est un autre Marcel. Ce livre absolument magique est à la fois une confidence et dans le même temps, c'est un voile qu'il pose sur sa propre vie privée. Donc il n'est pas contradictoire qu'on s'intéresse à la vie de Proust, à la couleur de ses gants, il y a des bibliomanes fous de ce genre de détails, et qu'on adore en même temps la recherche du temps perdu, mais ce sont deux recherches différentes.
Justement, vous avez parlé de sa sexualité.
Oui.
Marcel Proust était homosexuel.
Oui.
En quoi ça change la donne dans ce qu'il écrit, dans sa manière d'écrire?
Ah, je ne sais pas.
Est-ce
si
que
l'homosexualité
change
quelque chose dans sa manière
d'écrire?
Est-ce
qu'il la met en scène?
Bah, c'est Nabokov. Nabokov disait, quand vous lisez Joue d'Albertine, pensez fesses d'Alfred. Parce que Alfred Agostinelli était l'amoureux de Proust et qu'il est mort et que le narrateur, enfin Proust, en a fait dans La recherche du temps perdu une chute à cheval. C'était une chute d'avion. Il en a fait une chute à cheval et la mort d'Albertine. Je n'aime pas, moi, le réductionnisme qui consiste à penser qu'Albertine, c'est Alfred, si vous voulez, ou ça n'est qu'Alfred. Albertine est un peu Alfred, bien sûr. Mais si Albertine n'était qu'Alfred, Albertine ne serait pas le visage de tous les deuils qu'on a éprouvés depuis qu'Albertine disparue est écrit. Et Albertine ne peut pas être enfermée dans la personne qui lui a donné le jour. Le personnage d'Albertine est plus vaste que ça. C'est la raison pour laquelle il faut, à mon avis, donner à la vie de Proust sa juste place, celle d'un point de départ, littéralement. On parle de soi, mais on part de soi, au sens où on démarre de soi et on s'éloigne de soi-même inévitablement. Donc plutôt que de chercher les correspondances entre une vie fictive, celle de la recherche du temps perdu, et la vie réelle du narrateur, j'ai tendance à penser que c'est une façon pour lui de s'échapper de lui-même que de se forger un autre personnage qui a d'autres passions. Il n'est pas seulement hétérosexuel, le narrateur. Il est beaucoup moins asthmatique que Marcel Proust lui-même, qui était un homme chétif et extraordinairement douloureux. Le narrateur a quelques étouffements, bien sûr, mais rien de comparable.
Est-ce que c'est un mondain ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est, malgré lui, dans ce monde-là, des salons de la haute bourgeoisie et qui les observe, fasciné, intrigué et critique?
C'est un entomologiste. C'est pas un mondain, c'est un entomologiste qui trouve... dans les discussions des domestiques comme dans les débats des marquis et des ducs et des barons, toujours une matière littéraire. C'est un entomologiste que les fourmis intéressent autant que les frelons et qui, pour cette raison, se promène dans tous ces univers avec une neutralité axiologique totale. Il n'y a aucun jugement de valeur. Il trouve que, par exemple, la duchesse de Guermantes veut passer pour une intellectuelle auprès du narrateur parce qu'elle se dit que c'est un écrivain et que ce serait bon pour elle. Mais le narrateur observe à ce moment-là que elle n'est jamais si guermante que quand elle cite Victor Hugo et elle n'est jamais si romanesque que quand elle fait la Grande Duchesse. Mmh. Et seulement, ce sont des choses que les personnages eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Il promène son monocle dans des lieux qu'il faut regarder comme des ruches, comme des fourmilières, comme des espaces animaliers dont on décrit le comportement.
Il y a la Duchesse de Guermantes et il y a 200 personnages dans La recherche du temps perdu. On y revient dans un instant, mais on n'aura pas le temps de tous les faire.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Une voix voix et livre consacré à Marcel Proust aujourd'hui avec Raphaël Antoven, auteur entre autres du dictionnaire amoureux de Marcel Proust, mais aussi récemment d'une pièce de théâtre en vers, L'école des dames à l'Observatoire.
Dans son assurance victorieuse et sa grandeur de déesse, mais avec une feinte confusion d'arriver si tard et de faire lever tout le monde, entra tout enveloppée de blanche mousseline, la duchesse de Guermantes. C'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées, l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes. La duchesse, de déesse devenue femme, et semblant tout d'un coup mille fois plus belle, fit pleuvoir sur moi la verse étincelante et céleste de son sourire.
Je rigole parce que Raphaël Antoven cite le texte en même temps de mémoire.
Mais c'est parce que vous donnez les passages les plus célèbres.
Ouais, bah, enfin, quand même, c'était un extrait du téléfilm de Nina Companès qui a tenté d'adapter La recherche du temps perdu. Beaucoup ont essayé, mais c'est en fait c'est plutôt impossible. On ne peut pas raconter d'ailleurs, pitcher La recherche du temps perdu.
C'est une difficulté considérable parce que. Bah, alors, d'une certaine manière, il n'y a pas d'intrigue.
Il y en a trop.
Mais surtout. Le personnage central dans le livre, le personnage celui qui raconte l'histoire, celui qui dit « je », est un personnage fantomatique. C'est-à-dire que c'est un personnage dont la présence n'altère jamais ce qu'il est en train d'observer. Quand il observe le baron de Charlus en train de coucher avec Jupien, et quand il les entend hurler, les deux bougres ne savent pas qu'ils sont regardés. Et idem, quand il voit la fille de son professeur de piano coucher avec sa bonne amie, là aussi, elles ne savent pas qu'ils les regardent. Il est voyant sans être vu. Et ceci, cinématographiquement, est extrêmement difficile à restituer. Comment voulez-vous faire un film dont le personnage principal est un fantôme et qui ne soit pas le sixième sens ? Eh bien, voilà où nous en sommes. Et c'est une immense difficulté. Cela dit, de vous à moi, je crois qu'il y en a un qui pourrait adapter La recherche du temps perdu et qui est seul capable de restituer ce genre de beauté, c'est Sorrentino. Moi, j'attends le jour où j'attends la rencontre.
La grande Bellezza.
Oui, vraiment. J'attends la rencontre entre Proust et Sorrentino. Et je pense qu'elle aura lieu un jour. C'est pas possible de passer à côté de ça.
Moi, je voudrais bien assister au casting parce que donc il y a 200 personnages dans La recherche du temps perdu. Est-ce que il a voulu Proust embrasser tous les archétypes en disant voici l'amour, voici la jalousie, voici la cupidité par un tel, ou est-ce que il a créé simplement sa farandole, son grand manège?
Non, parce que s'il avait embrassé tous les archétypes, il aurait fait des pièces de théâtre, en somme avec des types humains, ça aurait été Molière. Non, non, c'est autre chose. Par exemple, quand il décrit la duchesse de Guermantes, le passage que vous avez donné est un passage où on est à l'opéra et où la duchesse et la princesse de Guermantes sont là toutes les deux et font pleuvoir la verse bienveillante de leur sourire sur les simples mortels qui sont comme le narrateur en bas et qui la regardent évidemment alors que voilà, au lieu de se tourner vers la scène, on est avant le début. Là, elle est en majesté, la reine, hein, la duchesse de Guermantes et la princesse aussi, tout le monde est en majesté, mais la première fois qu'il la voit vraiment, il voit une dame avec le nez un peu en trompette, enfin un drôle de nez, un nez bizarre, un bouton sur la joue, un foulard mal fichu, etc. Tout ça à des obsèques qui se déroulent en l'église de Combray. Et il dit, c'était elle, ma déception était grande. Alors qu'il commence par se demander qui est cette dame assise à la place de la duchesse de Guermantes. Et en fait, ce qui est très important dans la recherche, c'est le moment de la déception. C'est le moment où on rencontre son dieu et on s'aperçoit que ça n'est qu'un mortel. Il a besoin de la déception pour être ensuite en mesure de réenchanter un monde qui n'est que lui-même. Et donc, la duchesse de Guermantes, elle est au cœur de ce procédé. Elle est celle qui est tellement, comme Balbec, tellement précédée de tant de rêves, de tant d'envies, que quand elle apparaît, elle n'est qu'elle-même, avec des boutons et des organes. Et bon, ça retombe. Et puis...
Balbec, c'est la ville.
Balbec, c'est Cabourg, en fait. Enfin, c'est un ersatz de Cabourg. C'est l'ersatz littéraire de Cabourg, même si c'est différent. C'est la côte fleurie, Balbec. Et Swann lui parle de Balbec pendant des années. Le narrateur s'y précipite. Il pense à cette église fouettée par les vagues, aux dorures gothiques, etc. Enfin, aux formes gothiques. Et puis il arrive et il voit, dit-il, une petite vieille dont on peut mesurer la hauteur et compter les rides. Et ça, c'est très important. Confronter nos rêves à la réalité pour être déçu par la seconde et trouver malgré tout dans la seconde la matière d'être enchanté.
Si vous n'avez pas fait au moins 500 Proustiens après cette émission, je ne comprends plus rien. Justement, vous parliez de déception chez Proust et il en a connu des déceptions. Mmh. Alors, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour du roman. Et j'adore cette anecdote, tout le monde la connaît. Il a été refusé par Gallimard. Sur les conseils de Gide, qui a dit à Gallimard « Non, c'est pas bien, ce sera rien. »
Oui, alors Gide a eu l'élégance de longuement reconnaître son erreur et de s'apercevoir qu'il avait laissé passer là
Mais est-ce qu'il l'avait laissé passer ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender comme ça? Même Gide ne peut pas se rendre compte du chef-d'œuvre que c'est.
Alors,
comme ça,
y a plusieurs...
si on n'en a pas parlé ensuite, si ce n'est pas déjà sorti dans le monde.
Y a trois régimes d'explications. Il y a une explication à laquelle moi je n'adhère pas du tout, qui est que c'est une rivalité entre homosexuels parisiens qui n'ont pas la même conception de l'homosexualité, puisque Gide a une conception corridonienne et solaire de son homosexualité, alors que Marcel Proust la vit sur un mode honteux et plus difficile et plus difficile. Cultueux, mais ça j'y crois pas du tout. La deuxième explication, c'est qu'il est passé à côté du truc complètement, ce que c'est tout à fait possible. Après tout, pourquoi pas. La troisième explication, c'est qu'il l'a pas lu, puisque si j'ai bonne mémoire, Noël Cottin, qui était l'assistant de Proust à l'époque, mais ça il faudrait poser la question à mon père, parce que c'est lui qui raconte ça dans le dictionnaire. Noël Cottin était un ancien marin qui avait noué le paquet. Envelopper le paquet du manuscrit destiné à Gide avec un nœud marin. Et le paquet leur a été restitué avec le même nœud marin. Donc soit il y a des marins chez Gallimard, si vous voulez, soit on n'a pas ouvert le texte. Voilà. Donc il y a une inconnue là-dessus.
Et on retrouve l'anecdote dans le dictionnaire amoureux de Proust, que j'ai oublié de dire, vous l'aviez coécrit effectivement avec votre père Jean-Paul.
Non, vous l'avez dit. Vous avez bien fait.
Tant mieux. Quand même, il y a aussi une autre chose qui me fascine toujours dans ce domaine-là, c'est que quand le livre sort, on dit qu'il paye des influenceurs, en fait, pour les journaux, pour inonder les journaux de bonnes critiques. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça dit de Proust, de son orgueil?
Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir...
Vous ne savez pas si c'est vrai?
Je ne sais pas si c'est vrai. Ça ne me surprendrait
pas. Ça lui ressemble ou pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? La vie, ça demande des encouragements. Et même si on s'organise pour que ces encouragements soient téléphonés, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis plein d'indulgence pour tous les artifices qu'on se donne dans l'existence pour aller un peu mieux, si vous voulez, quand bien même ce sont des procédés artificiels. Cela dit, je ne sais pas si c'est vrai. Il faudrait demander à Tadier, ça, c'est vraiment lui qui sait, le biographe de Proust, Jean-Yves Tadier, saurait vous répondre très précisément sur ces démarches possibles.
J'ai une question... Je ne suis pas sûr qu'elle soit très pertinente, mais elle m'amuse.
Ce qui est vrai aussi, c'est que dans La Recherche du Temps Perdu, Proust est impitoyable avec les ambitieux, avec les gens qui veulent se faire bien voir, avec les gens qui veulent entrer à l'académie, etc., etc. Il est impitoyable. Et là, c'est là que le type est formidable. C'est-à-dire que personne ne se moque autant de lui-même que Marcel Proust.
Près.
C'est pas contradictoire de se moquer de soi. On cède à une passion, mais quand on écrit, on se moque de soi.
Alors, voici ma question moyenne, mais elle m'amuse. Est-ce qu'aujourd'hui, La Recherche du Temps Perdu serait acceptée par un éditeur?
Oh oui, je pense.
C'est très long. Phrases sont longues.
Ah
même
oui,
si elles
c'est très termes. Long, mais enfin, quand même, quoi. Quand même, c'est quand même. Si sur 10 lecteurs de maisons d'édition, des lecteurs chevronnés, il y a du niveau dans les maisons d'édition, si sur 10 lecteurs, il n'y en a pas un qui s'aperçoit en lisant les 10 premières pages de La Recherche qu'il est face à un monument, je rends mon tablier. Non, je conserve cet optimisme. Pour l'anecdote, c'est sûr, Duras serait refusé en plein d'endroits, Proust aussi, probablement, Stendhal, à n'en pas douter, Flaubert peut-être, Dostoïevski, c'est sûr, mais il y a quand même une justice immanente et deux ou trois valeurs absolues en littérature. Je n'arrive pas à penser que personne ne s'en aperçoive et que le livre lui-même retombe dans la longue série des jours oubliés.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est intimidé par la recherche, qui n'ose pas y aller, et pourquoi, effectivement, beaucoup de gens sont intimidés par la montagne, qui n'arrivent pas à se lancer dans l'ascension du monument?
Y a la méthode Françoise Sagan, qui est intéressante, qui faisait des prescriptions proustiennes. C'est-à-dire, vous avez une peine de cœur, vous lisez 12 pages d'Albertine, entre la page 16 et la page 28. Vous avez envie d'écrire, vous doutez de votre talent, vous allez dans le temps retrouvé, vous avez telle page qui traite. Elle faisait des prescriptions proustiennes, ce qui était une bonne méthode. Moi, je dirais, si vous êtes intimidé par le grand livre, il se trouve que, comme dans Alien, il y a un alien dans l'alien, hein, et ben dans La Recherche du Temps Perdu, il y a une petite recherche. Et c'est pas mal, c'est Un amour de Swann. C'est la deuxième partie du premier livre. Il y a 7 livres dans La Recherche, et du côté de chez Swann, qui est le premier livre, sa deuxième partie, c'est Un amour de Swann. Et les 200 pages qui composent Un amour de Swann sont des pages qui concentrent l'ensemble des problématiques de la recherche. L'histoire d'amour entre Swann et Odette est un écho avant l'heure de l'histoire du narrateur et d'Albertine. La jalousie de Swann travaillera le narrateur pendant des milliers de pages ensuite. La symphonie, la petite phrase de Vinteuil, est déjà l'hymne de l'amour qui, 30 ans plus tard, sera l'amour du narrateur et d'Albertine. On a tout sur 200 pages, densifié, condensé, et en plus ça commence très bien et très drôlement. Donc plutôt que de commencer par Combray, enfin la la première page. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Plutôt que de commencer par ce bonheur-là ou cette bonheur-là, commencer par un amour de Swann.
Et on est arrivé à comparer Proust et Alien, c'est oui. très antovenien et c'est pour ça que je vous ai invité pour ce talent-là. Merci beaucoup Raphaël
Antoven. Merci à vous, un plaisir. Toujours.
Et je rappelle d'abord votre roman Le Temps Gagné, très proustien justement, et votre pièce de théâtre L'École des Dames. Les deux sont aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Raphaël.
Merci Nicolas.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Clémentine Sellary. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue et nous partons visiter une bibliothèque, celle de Clémentine Sellary. Un grand moment. Bonjour Clémentine Sellary.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. On est à Paris, mais quand même dans une petite maison. C'est fou ça.
Toute petite, enfin.
Toute petite, mais maison
mais
quand même.
Un petit peu en hauteur, oui, c'est parce qu'il y avait une cave et moi j'ai des enfants, qui, surtout un qui fait de la musique, du jazz et tout. Donc il faut une cave pour qu'ils répètent, quoi.
Oui. Il y a une bibliothèque dans l'entrée, mais il y a aussi beaucoup de livres dans le salon, là.
Oui.
Ce sont vos livres préférés, ça pour...
Alors, mes livres, en fait, comme je savais que vous veniez, que je ne voulais pas trop vous montrer ma chambre parce que c'est un bordel absolument innommable. Mais bon, je peux vous la montrer quand même, à un moment donné. On peut y aller,
c'est
gentil,
parce que,
voilà, mais de toute façon,
je veux bien vérifier quand
donc,
même.
Bon, il n'y a que vous qui allez la voir. Mais du coup, j'ai descendu les bouquins qui sont sur mon lit. Quand il n'y a pas d'homme, vous voyez, dans mon lit, je veux dire, parce que je n'aimais pas les bouquins sur l'homme, le pauvre, enfin, j'emmure pas un homme dans mon lit, si vous voulez. Donc, je vous ai descendu vraiment mes préférés.
Toute la collègue.
Enfin, ceux qui, avec qui, lesquels je bosse ou que j'aime bien avoir à côté de moi, quoi.
Alors, celui qui est au-dessus de la pile, c'est curieux. Le dictionnaire des symboles dans la belle collection
en fait,
bouquin.
J'ai confondu parce que celui que j'aime, moi, c'est le dictionnaire des rêves.
Ah,
c'est pas grave.
Il est bien aussi.
C'est parce que, mais ça, c'est intéressant parce que. Quand on va, on cherche n'importe quoi au pif. Moi, j'aime bien aller dans un livre au pif, hein, c'est chouette. Froc, bon non, fronde, Thierry Lafronde. Pour les Incas du Pérou, la fronde était l'arme. Vous voyez, il y a plein d'informations très passionnantes. L'œuf considéré comme contenant le germe à partir duquel se développera la manifestation, est un symbole universel qui s'explique de lui-même, la naissance du monde à partir d'un œuf. Bon, voilà, d'accord. Bon. Alors, moi, le dictionnaire des rêves, c'est passionnant.
Pourquoi il y a Patrick Peloux juste en dessous?
Ah, parce que Patrick Peloux, c'était mon voisin, c'est vrai.
Ouais.
Parce que d'abord, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ce qu'il véhicule, ce pourquoi il se bat et contre quoi il se bat. Il était mon voisin au salon de Brive et je lui dis tiens tu me le passes alors
ah,
il passe un livre à toi, il me l'a dédicacé. Oh, ouais,
mais on peut lire, pas dire c'est perso.
Non, mais non, c'est perso.
Okay, okay.
Je t'aime pour toujours, c'est marqué. Voilà, tu es la plus belle femme du monde. Voilà, mais c'est personnel. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça, j'adore. Une bouche sans personne. Alors ça, c'était à Rouen. C'est Hélène qui m'a fait découvrir Gilles Marchand.
Je connais pas, j'avoue.
Ah, mais c'est dément, ça. Il faut que vous lisiez ça. C'est plein de mystères. C'est très, très bien écrit. Et donc, j'ai découvert... C'est chouette quand on fait des salons et quand on va dans des librairies. Ouais. Parce que d'abord, on rencontre des gens formidables, souvent. Et on rencontre des libraires passionnés et qui nous font découvrir d'autres bouquins. Vous voyez,
découvrir
c'est très, très chouette.
Un auteur qu'on ne connaissait pas jusque-là,
voilà.
Avec qui on avait vécu...
Voilà.
Sans qui on avait vécu depuis si longtemps.
Oui.
Et on se dit, mais comment j'ai fait?
Oui, et on se sent connecté. Par exemple, il y en a un autre, et il est là. C'est Despnous, François Despnous.
Oh là là,
Deux jours
pas,
à tuer. Mais si, vous connaissez plein de trucs. Maupassant, vous connaissez?
Oui,
Stéphane Zweig.
Un jeune type qui débute, oui.
Voilà, Yann Kefelec.
Oh, Yann Kefelec.
Alors, moi, c'est celui-là, mon préféré.
Les Noces Barbares, le prix Goncourt.
Pour moi, c'est l'amour, en fait. C'est le contraire. Enfin, ça raconte le contraire, mais justement, ça raconte l'histoire d'un être qui, lui, un enfant qui a plein d'amour et qui est incompris de tout le monde, quoi. Et c'est. Je trouve ça, mais écrit, mais.
Oh, il est sorti en 90 de mémoire. Vous l'aviez lu. À ce moment-là ou
non,
vous l'avez
tout.
Découvert sur
J'ai
le
découvert
tard.
Après.
D'accord.
Et je crois que c'est maman qui m'a fait découvrir beaucoup de bouquins, qui m'a dit « Lis ça, tu as lu Les Noces Barbares de Kefelec ?» Et du coup, je l'ai lu et ça m'a prise complètement. C'est les premières, juste les premières lignes. « Le bain refroidissait, Nicole émergea. Ruisselante, elle décrocha la serviette éponge et se frictionna longuement. Les parfums croisés de la campagne et du pain chaud faisaient monter en elle une langueur qui la berçait. » Juste ça. Déjà, on y est. Vous ne trouvez pas? C'est dingue.
Il y a quand même là.
Je suis très, très passionné par lui.
Il y a deux énormes livres sur Maupassant, des recueils de nouvelles.
J'ai lu et relu.
Donc, toujours chez Bouquin. Heureusement qu'ils sont là, Bouquin.
La première personne qui m'a fait découvrir Maupassant, c'était Gérard Guillaumat, qui lisait ça quand j'avais 16 ans. Donc, ça fait longtemps. Et en fait, ça m'a choquée beaucoup. C'est comme ça que je suis devenue comédienne. C'est parce que j'ai vu, vous voyez, cet homme lire. Ça, je me suis dit, il faut faire ça. Il faut que je fasse ça. Que je raconte des histoires. Que... Donc, c'était les contes de la Bécasse. Là, il y a toutes sortes de contes mélangés. Là, le truc, c'est que c'est un peu lourd.
Il faut s'asseoir et poser sur les genoux, quoi.
Ouais, enfin, s'asseoir.
C'est quoi votre nouvelle préférée ?
Une vie. Oh, mais c'est géant. Belle amie aussi, bien sûr. L'enfant, il y a deux enfants en plus. Il y a deux nouvelles qui s'appellent L'enfant, qui sont géniales.
C'est joli ce vieux bouquin chez Julliard, là. Ouais. Le foot bassan.
Je sais pas ce que c'est.
Ouais, mais c'est un livre ancien, c'est vraiment beau.
En Bretagne, Fred, qui a une brocante, et je trouvais que c'était marrant. Alors, ça, il y a.
Oh là 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 là.
La maison dans laquelle Mariam Petrossian, ça, c'est un bouquin.
Chez Monsieur Toussaint l'ouverture.
Voilà.
C'est un livre.
Ça, on me l'a donné à Mulhouse. Des libraires à Mulhouse qui m'ont invité dans une soirée dingue où j'ai lu mon bouquin à la folie. J'en parle quand même, je glisse ça. C'est mon livre, mon nouveau roman.
Bien sûr.
À la folie, voilà. Si on cherche midi, 16 euros, je ne sais pas quoi. Non, je sais pas qui dit ça coûte, machin. Eh bien, c'est quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry, enfin, pardon si je me trompe de ton prénom, qui m'a offert ça. Il m'a dit, tiens, ça c'est pour toi parce que... Ça te plaira. Apparemment, c'est bien barré. Ah ouais, ça a l'air.
C'est russe.
Mais c'est beau. Mais oui, mais c'est. Alors j'ai commencé et c'est oui, c'est très prenant. On est pris dans un espèce de tunnel, quoi, comme dans un voilà un endroit un peu mystérieux, quoi. D'accord. Oh tiens, ça c'est. Ah oh, c'est marrant que je trouve ça.
C'est quoi?
Ah oui, montre-moi. Alors ça c'est un bouquin de mon père. Mon père qui s'appelle André Sélarié a écrit Le carnet de route d'un enfant de cœur, Nicodème. Et c'est très chouette, c'est plein de souvenirs et c'est édition Montourgard. Hein. C'est comme ça je fais de la
votre
pub.
Votre père qui était journaliste radio.
Ah oui absolument. Alors à télé et tout ça, et voilà. Et puis il a fait un bouquin qui est sur des souvenirs à lui, mais mis Nicodème c'est quelqu'un qui se faisait souvent avoir quoi. Donc c'est très très mignon. C'est voilà, il a un site à papa. Si vous voulez le voir, c'est sur son site. Comme ça je lui fais de la pub.
Joli, ouais.
Vous voyez, j'ai d'autres bouquins de lui. L'octogénaire, plaisir et les pièges. C'est très chouette, vous voyez cette photo là, deux personnes, c'est le mur en Irlande et deux personnes leur tombe se font se serrent la main avec une statue. C'est une très belle image.
C'est le titre de la tombe d'à côté quoi.
Voilà, ça c'est sur la maillie de Charcot. J'ai toujours des choses dans ma bibliothèque sur la maladie de Charcot. Ben oui, parce que je suis très concernée. J'ai une amie qui s'appelle Lorraine, qui l'a, cette maladie, et qui est un truc abominable. Et d'ailleurs, il faut se bouger les fesses avec ça, parce qu'on n'en parle pas assez, de toute façon. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, il y a Georges Sand aussi.
Ah, la Pléiade.
Des passages avec...
Elle a bien servi, cette Pléiade.
Ah, mais c'est magnifique, ce qu'elle raconte avec Chopin et tout ça. Ça serait bien de lire ça à des jeunes ados. Aujourd'hui, il y a des trucs magnifiques, quoi. Mais comme ils sont trop, là, un peu embrigadés par le système et tous ces trucs de réseaux sociaux, de machins et de trucs, c'est dommage, parce que la lecture, c'est un truc... Qui vous fait du bien, quoi, enfin, profondément. Vous voyez ce que je veux dire, qui est fondamental.
Bon, ben, merci beaucoup, Clémentine Sélarié, parce que j'ose pas vous demander de nous faire visiter votre chambre, donc...
Venez, parce que vous êtes gentil.
Bon, ben, allons-y.
Mais juste comme ça, pour voir, vous venez, hop, et puis vous partez.
Ouais, d'accord.
Parce que sinon, vous allez avoir une attaque.
Sauf si je vois vraiment un bouquin qui m'interpelle, quoi.
Non, mais vous allez rigoler, hein, mais voilà, hein, vous dites à personne, surtout. D'accord. Donc, vous avez vu, il y a plein de bouquins là.
Mais oui, où est-ce que vous dormez?
Mais je dors là.
À côté de vos bouquins.
Alors voilà, La falaise, au pied de la falaise, by Moko. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est une BD qui est très belle sur l'Afrique et tout ça, sur un village en Afrique. Il y a Edmond, parce que j'étais voir Edmond, parce qu'il va y avoir un film. Edmond, vous savez.
Oui, la pièce, je l'ai vue.
Michalik, voilà, que j'ai adoré. Et il va y avoir un long métrage fait. Et je vais jouer Sarah Bernard.
Ah, super.
Donc je suis très, très heureuse.
C'est un beau rôle en plus.
Magnifique. Oh, c'est un petit rôle, mais c'est magnifique.
Clémentine, c'est quoi ce vieux bouquin-là?
Quoi? Où?
Bah,
ah, ça, c'est moi qui écris. C'est moi qui écris l'adaptation. C'est beau, hein? C'est un
mais
truc
qu'on
écrit dedans. Ben c'est des vieux bouquins en parchemin.
Ah ouais, c'est
magnifique. Il est gentil, Julien, n'ose pas regarder.
Venir, mais bien, Julien, c'est le technicien.
N'inquiétez pas, on va
l'ingénieur
pas,
du
pas
son, vous... viens.
Il y a John Cazavette, des DVD. Il y a...
C'est vrai que le lit à baldaquin est impressionnant.
C'est chouette, voilà. Puis là, il y a du truc, enfin voilà. Mais voilà, c'est
bien.
Bon,
on s'en va. Chut, on veut pas.
Regardez pas.
Voilà.
Oui, on a la chance. Vous savez qu'ici, avant, c'était un club de jazz.
Ah ben c'est cette ambiance-là, effectivement.
C'est incroyable. Il y a Django Reinhardt qui a joué ici. Enfin, c'est dément. On a beaucoup, beaucoup. Enfin,
bon, ben
c'est
merci.
Ben, de rien.
Merci beaucoup, Clémentine, de nous avoir reçus.
Merci à vous. Vous avez vu, je vous ai quand même montré mon ventre.
Ouais, c'est
chambre,
gentil,
c'est mon
vraiment.
Ventre, hein.
Merci beaucoup. À
merci
bientôt.
À vous. Merci, au revoir.
Europe 1. Retour dans les studios d'Europe 1. Dans un instant, les libraires. 14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, La Voix est libre de l'été et donc de libraire au lieu d'un habituellement. Avec moi cette semaine dans les studios d'Europe 1, Anne Burzinski de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Ça vous plaît les locaux d'Europe 1 ?
Ouais, c'est grandiose. Hein.
Et Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement qui connaissait déjà les locaux. On commence par vous, Anne. Quel livre avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi mon intemporel, ma merveille, mon panthéon. J'ai choisi Frankenstein de Mary Shelley.
On en parlera dans quelques semaines. Mary Shelley, l'auteur, l'autrice.
Super, voilà, quel à propos. Alors du coup, ce grand livre, il est pas tout récent. Il est quand même paru en 1818, mais il a pas pris une ride. C'est même impressionnant à quel point, parce que pour le coup, c'est un des rares livres que j'ai lu en VO. Et je trouve qu'il est d'une modernité qui est bluffante. On le lit en anglais, mais comme ça. Et je trouve que c'est un livre complet comme on en fait rarement parce qu'il y a tout dedans. Alors, pour redonner un petit peu la quintessence du livre, j'allais dire, parce qu'on le connaît sans le connaître, on a un peu cette image d'Épinal du monstre vert avec son clou dans la tête. On l'a un peu dévoyé, quoi. C'est vrai que c'est le costume d'Halloween de service, mais on a un petit peu oublié... C'est pas inintéressant, mais on a un peu oublié ce qu'il y avait derrière.
On croit toujours d'ailleurs que Frankenstein, c'est le monstre.
Exactement.
Alors que c'est le créateur.
Eh bien, super. Eh bien, justement, j'allais en parler. Tu me fais plaisir. Alors, en fait, c'est effectivement le truc un peu commun, c'est de dire, ah oui, ce fameux monstre qui s'appelle Frankenstein, en fait, pas du tout. Et c'est une des grandes clés du livre, finalement. C'est que le monstre n'a pas de nom. En fait, c'est Frankenstein, c'est le nom de famille du créateur qui s'appelle Victor Frankenstein, qui est un savant qui ne supporte pas la mort, en fait, et qui va faire toutes sortes d'expériences pour, à partir de, finalement, des meilleurs éléments de différents cadavres, refaire un être qui puisse vivre. Sauf qu'il n'a pas du tout pensé aux conséquences de ses actes, quoi.
Et il y a tout un tas de symboles et d'allégories dans ce livre. On peut pratiquement résumer l'histoire de l'humanité avec ce livre, finalement.
Exactement. En fait, c'est un livre d'une richesse incroyable. Il y a, sur le plan philosophique, en fait, tu as un nombre de clés où tu peux en parler des heures, tu peux y réfléchir des heures. Il y a des questions sur l'ambition, sur la science, sur le double. C'est vraiment... Moi, une des choses que je trouve justement d'une modernité incroyable avec ce roman, c'est le côté fantastique au sens du 19e. C'est-à-dire que pendant tout le livre, tu peux aussi te dire, est-ce que cet homme est fou, en fait, et est-ce que le monstre, c'est la partie dark de lui-même, finalement, est-ce qu'elle n'existe pas ? En plus, elle n'a pas de nom. Donc, est-ce que c'est la pire part de lui-même et est-ce que c'est ce qu'il assume pas, ce qu'il rejette ? Ou est-ce que le monstre existe ? Et alors, il y a des réalités qui sont possibles et qu'on connaît pas encore, en fait.
Et puis, il y a évidemment le thème de la différence, quoi, et de l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire qu'il est complètement rejeté par le reste de l'humanité.
Exactement,
évidemment.
C'est qu'en fait, du coup, son père créateur a très très peu assumé de le mettre dans le monde, ne lui a rien expliqué. Lui se retrouve avec un visage monstrueux, donc tout de suite jugé et rejeté, en fait. Et du coup, il a pas de place, en fait, dans cette société. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur le rapport à l'ambition, c'est quand même super important parce que ce qu'on ne sait pas forcément quand on n'a pas encore lu Frankenstein, c'est qu'il y a vraiment un personnage miroir à Victor Frankenstein qui est Walton, qui est en fait un navigateur qui veut rejoindre le pôle Nord, mais à tout prix, qui est prêt à mettre en danger la vie de ses hommes. Et c'est en rencontrant Victor Frankenstein qu'il va comprendre à quel point il va trop loin.
Non mais vous en dites trop, Anne. Je vous ai dit qu'on allait consacrer une émission dans quelques semaines.
Ouais, pardon.
Ça laisse d'ailleurs aux auditeurs le temps de lire Frankenstein pour ceux qui ne l'ont pas encore lu.
Ah ouais, lisez-le.
Et comme ça, on pourra débriefer ensemble avec la prochaine émission dédiée. Stanislas Rigaud, l'autre justement.
L'autre. Alors effectivement, dans ce choix toujours un peu compliqué du livre incontournable, on en a tous une tonne. Hein, donc c'est toujours un peu... Voilà, j'ai choisi de revenir sur Cormac McCarthy avec Méridien de sang aux éditions L'Olivier. Alors déjà, il y a une actualité, malgré le fait que le livre date de 1985, il y a une actualité puisque L'Olivier fête ses 30 ans cette année.
Et que
les éditions L'Olivier fêtent ses 30 ans cette année et décident de marquer le coup en sortant dans leur petite collection, pas dans leur collection, la bibliothèque de L'Olivier, leur plus grand titre. Et Dieu sait qu'il y en a quand même une énorme rafale.
Il y a Jay McKinnor né, 30 ans et des poussières.
Voilà, il y a énorme.
Il y a Wilson.
Dubois, il y a énormément de grands livres qui ont marqué ces dernières années. Et donc, j'ai choisi la réédition, il y a 2-3 mois de ça maintenant, de Méridien de sang de Cormac McCarthy. Alors McCarthy, il a vraiment explosé en France avec les deux derniers, puisque La route, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Et juste avant, il y avait Non, ce pays n'est pas pour toi, vieil homme, No Country for the Old Men, à cause du succès du cinéma. Mais bien avant ça, il y avait effectivement...
Ça ne sonne pas en français d'ailleurs, je trouve.
Ça ne sonne pas en français.
C'est No Country for Old Men, et puis c'est tout.
C'est No Country for... Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois où, en fait, quand l'édition poche est sortie, l'édition poche s'est appelée No Country for Old Men, suite au film, alors que l'édition grand format s'était appelée Non, ce pays n'est pas pour toi, vieil homme. Film et je crois que c'est la première fois que, depuis, ça a été refait, mais que le titre change entre les deux éditions. Et donc, Méridien de sens, c'est une espèce de pierre d'angle du roman américain. Le scénario, l'idée de départ est très simple. Hein. Un gamin au milieu du 19e siècle, qui s'appelle Le Gamin, qui va rejoindre une bande de tueurs d'Indiens qui vont patrouiller à la frontière mexicaine et massacrer, et peut-être se faire massacrer. Donc, voilà, on a une espèce de chemin de route qui est... totalement halluciné. Alors, parce qu'effectivement, derrière, c'est pas du tout un western au sens traditionnel du terme. Il est facile de dire d'ailleurs que c'est l'apocalypse now du western, puisque en fait, le personnage central, à part le gamin, c'est le juge, qui est une espèce de monolithe qui fait forcément énormément penser à Kurt. Mais c'est bien plus que ça, puisque c'est servi par cette langue extraordinaire de McCarthy. Halluciné, biblique, shakespearienne, tous les adjectifs là, comme ça, viennent, tombent dessus. Alors on peut être très très réfractaire à cette langue, ce qui n'est pas du tout mon cas, et qui fait de ce livre un espèce de marécage. C'est un marécage, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, 4 fois, 5 fois, et je ne sais pas ce que c'est que ce livre, en fait. En fait, j'y retourne, il y a plein de passages que je ne comprends pas, mais je suis absolument hypnotisé par ce livre. Je ne comprends pas certaines injonctions... La manière dont l'histoire parfois se goupille. Mais c'est pas la question, en fait. La question, c'est que vous êtes porté par la force du texte. C'est un livre totalement inoubliable qu'il faut absolument tester. À mon sens, hein, c'est... voilà, c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine, un chef-d'œuvre noir.
Et vous en vendez encore des palettes à la librairie?
Toujours.
Bon. Merci beaucoup, Anne Burzynski, librairie L'écriture à vos cressons qui conseille Frankenstein et Le Méridien de sang de Cormac McCarthy. Merci beaucoup Stanislas Rigaud.
Merci.
Librairie Lamartine à Paris. Merci à vous deux. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin aussi pour la préparation et à Boris Paczynski, évidemment, l'homme aux doigts de fée avec ses petits ciseaux. À la semaine prochaine, rendez-vous avec Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.